Sa passion pour l'histoire met la table pour des romans captivants, des thrillers, des polars. Il nous sait nous surprendre et nous faire passer à travers différentes émotions dans ses romans. Et là, il nous arrive avec le tome 2 de La Cage, l'empoisonneuse. Il s'agit de Hervé Gagnon. Bonjour, M. Gagnon.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bien, ça va bien. Ce que les auditeurs ne savent pas, c'est que nous, on m'émère avant de commencer à
oui.
se parler pour vrai. Fait qu'on s'est déjà dit qu'on allait bien.
Oui, c'est ça. Monsieur Gagnon, on a eu la chance déjà de se parler pour, entre autres, votre roman Crossroads que j'avais adoré. Là, présentement, comme je l'ai mentionné, puis on s'est parlé aussi pour La Cage, le tome 1, qui est sorti, c'était quoi? C'était en 2022?
Oui, je crois, oui.
Et là, vous nous
allez... Je perds le fil un peu. Moi, je suis toujours en avance sur ce qui sort. Là. J'en ai deux d'avance qui sont déjà écrits. Je suis un peu perdu.
Oui. Bon. Ouais. Hervé Gagnon, vous détenez un doctorat en histoire, une maîtrise en muséologie, une maîtrise en histoire. Et puis, vous avez enseigné dans de nombreuses universités au Québec. Que vous avez... L'enseignement, c'est de côté maintenant parce que vous consacrez uniquement à l'écriture.
Oui, on pourrait dire que j'ai mal tourné. Hein?
Pour notre plus grand plaisir, là.
Ben, je pense que ça fait plaisir à bien des gens. Fait que je me dis que je n'ai peut-être pas pris de mauvaise décision. Mais... Non, moi, quand j'ai commencé à vraiment faire du roman plus sérieusement, c'est pas à l'essai, mais quand j'ai commencé à voir que j'étais capable d'en faire, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé ma chaise. Là. C'est de faire ce pour quoi j'avais été conçu. Là. C'est...
Mm-hmm.
Et j'ai jamais regardé derrière après, je me suis jamais posé de questions. Puis je m'en poserai pas jusqu'à temps que je sois plus pertinent, ce sera aux autres de me le dire.
Monsieur Gagnon, je l'ai mentionné, vous êtes un passionné d'histoire, on le sait, avec votre background, comme on dit. Mais le surnaturel, l'ésotérisme, le côté noir également, parfois, des personnages, des situations, vous attirent beaucoup. Pourquoi?
Bon, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours cherché... les petits raccoins moins connus de l'histoire. Tu regardes seulement mon parcours d'historien dans une autre vie, là, pour quelques siècles.
Oui.
Tu sais, mon mémoire de maîtrise était portée sur la chasse aux sorcières. Ma thèse de doctorat portait sur les musées, les expositions itinérantes à Montréal au 19e, mais ça a tourné en exposition sur les freak shows. Ça a tourné en thèse sur les freak shows, les jumeaux siamois, les hommes à deux têtes, les bébés à deux têtes dans des bocaux, des voyageurs.
Oui.
Et puis, je pense que j'ai toujours été attiré parce que les gens ne savent pas par le petit détail. Et c'est souvent ces petits détails-là qui sont à la base de mes romans. J'ai une filière très remplie de petits détails et de petites étrangetés comme ça que j'ai croisées. Ou que je croise encore aujourd'hui au fil de mes lectures, puis des fois je me dis, ah, il y a quelque chose là. Je sais pas quoi, mais je le note. Et tu vois, La Cage, c'est une idée que j'avais notée là, presque 15 ans. Parce que j'avais croisé dans mes recherches doctorales cette petite annonce dans la Minerve qui annonçait que La Cage allait être exposée à la boutique de M. Untel devant le marché Bon Secours pour une semaine.
Mm-hmm.
Et je suis parti de là, simplement une petite annonce, un petit encart dans le journal.
Mais ça, c'est un fait réel, la Corriveau.
Oui. La Corriveau, c'est vrai, l'exposition de La Cage aussi.
Ah oui. Et c'est impressionnant.
Le reste, évidemment, c'est
vous avez tricoté autour, comme on dit.
C'est ça. C'est ça.
Le personnage d'Eugénie, la chance, est assez particulière, il faut le dire, avec c'est une jeune fille qui est âgée de 17 ans. Et qui, on pense qu'elle est comme possédée, M. Gagnon.
Oui, bien ça, c'est une équivoque que j'ai volontairement pas solutionné. Est-elle possédée?
Ouais.
Est-ce qu'on est dans la maladie mentale? Est-ce que... Bon, écoute, c'est sûr que dans le premier tome, il y a une épidémie d'assassinat de mari chez les femmes qui ont été visiter La Cage.
Ouais.
Alors, on peut penser que La Cage a quelque chose de maléfique. Mais en même temps, dans le cas d'Eugénie, elle était instable avant La Cage.
Mm-hmm.
Alors la question se pose, est-ce qu'on est plutôt dans la maladie mentale? Est-ce qu'on a affaire à une personne qui est obsessionnelle, qui est schizophrène peut-être? Mais c'est un beau personnage dans le sens où il est très laid. T'sais?
Elle est méchante.
J'ai réussi à la pousser à des degrés non pas de méchanceté, mais de mauvaise intention, d'obsession. Elle n'est pas tant méchante qu'obsédée par l'idée de sauver ou de protéger son petit frère.
Ouais.
Et elle en développe une haine épouvantable à l'égard de tous ceux qui pourraient l'en empêcher. T'sais. Mais on va se le dire, elle est folle alliée. Là,
oui. T'sais. Mais ça se lit là, d'une traite, comme on dit. Là. C'est passionnant lorsqu'on embarque dans la lecture. Moi, j'ai adoré la série parce qu'avec ce tome 2, ça complète l'histoire de la cage.
Ah oui, il faut savoir se taire. Hein. Quand l'histoire est complète, il n'y a plus rien à dire. Alors, dans ce temps-là, je cesse de dire, je m'en vais ailleurs, mais tu sais, je me dis, c'est un beau polar en deux tomes qui se lit facilement.
Ah, oui.
Les jeunes l'aiment beaucoup, d'après ce que je vois dans les écoles, mais les adultes aussi. Ce qui ne nous a pas surpris, parce que mon éditeur et moi, on était très conscients qu'on avait autant un polar court qu'un polar jeunesse.
Wow. Ouais.
Puis on a même hésité à mettre jeunesse sur la page couverture. Là. On a hésité avant de l'inclure dans la collection jeunesse, mais finalement, comme ça avait déjà été fait comme ça en France, on l'a laissé comme ça.
Okay.
Mais on voulait pas causer de confusion, puis c'est pourquoi il est jeunesse en France, puis pourquoi il l'est-il pas au Canada. Alors, on a laissé tomber cet aspect-là, puis on l'a mis dans le jeunesse, mais toutes les critiques à date ont fait la même remarque que celle que vous venez de faire, c'est-à-dire que ça se lit tout seul, puis c'est un adulte qui le lit.
Oui, c'est une des belles séries que j'ai lues dernièrement, je dois vous le dire. Alors, il y a Eugénie Lachance là, qui est maléfique par moment. J'aimerais que vous nous parliez du personnage du constable Seamus O'Finnegan.
Oh, le pauvre Seamus, hein? Ça fait pitié.
Oh, ouais. Parce qu'il est tombé en amour dans le premier tome avec Eugénie.
Ben oui, c'est l'époque où tous les constables de Montréal pratiquement sont irlandais. Alors évidemment, je ne pouvais pas me priver d'un constable irlandais parce que c'est un gros costaud, timide, encore un peu sous la coupe de sa maman, qui est l'amoureux transi d'Eugénie, mais un petit peu plus vieux qu'elle, qui a peut-être 4-5 ans de plus qu'elle. Et qui ose pas vraiment se déclarer et qui graduellement en enquêtant sur les morts sur les assassinats qui se déroulent à Montréal s'aperçoit qu'il y a un lien avec Eugénie et là ben évidemment il déchante et Eugénie quand elle s'aperçoit qu'elle est démasquée ben elle change complètement de personnalité puis elle révèle ce qu'elle est vraiment et bon écoute le deuxième tome c'est carrément Seamus qui est sur les traces d'Eugénie. Donc, on soupçonne, d'ailleurs, pendant une bonne partie du roman, sans la voir. Elle est très présente.
Oui, c'est vrai.
Mais elle n'est pas présente physiquement. On la soupçonne derrière les événements, derrière les choses qui surviennent. On soupçonne son influence, on sent sa présence. Mais il faut longtemps avant qu'elle finisse par apparaître. Ça, j'ai bien aimé le faire comme ça. J'avais jamais travaillé un personnage de cette façon-là, c'est-à-dire son espèce de d'aura au-dessus de son ombre au-dessus du récit sans pour autant qu'elle soit là.
Mm-hmm.
Ça a été assez difficile à faire, mais ça a bien sorti.
Ah, ça a très, très, très bien sorti. Vous faites référence également dans ce deuxième tome au grand incendie de Montréal qui a bel et bien eu lieu.
Ah oui, c'est moi quand j'ai des hasards comme ça qui se présentent en cours d'écriture, je sais que j'ai une bonne histoire dans les mains là. Tous les livres dont j'étais particulièrement fier avaient toujours eu ce genre de coïncidence. Et dans le cas de la cage, au départ, je pensais pas faire un deuxième tome, je m'étais gardé une porte de sortie à la fin. Mais il était absolument pas certain que je le fasse. Et quand je l'ai fait, j'ai regardé un petit peu, je dis bon, écoute, faut que ce soit un petit peu plus tard que le premier, quelques mois. Et là, ça m'a sauté en pleine face. Mon Dieu, c'est l'époque de l'incendie de Montréal, le grand incendie de 1852, qui avait rasé presque un tiers de la ville.
Oui.
On a d'excellentes descriptions. Écoute, il y a des, dans les journaux d'époque, le lendemain, le surlendemain, la première page, tu sais, celle en 6 ou 7 colonnes, là,
oui.
Ce n'est que la description de l'incendie, maison par maison, rue par rue. Et alors, tu sais, c'était très, très facile de le reconstruire, de le reconstituer au complet et d'y planter mes personnages. Puis d'avoir des belles images, dans le sens où, quand tu vois ton ennemi à l'autre bout de la rue, mm-hmm. à travers la fumée, t'es jamais vraiment sûr que tu l'as vu, mais t'es assez sûr pour que ça t'obsède.
Ouais.
Et c'est des scènes comme ça, moi, ça nourrit beaucoup le récit, je trouve.
En tout cas.
J'ai été chanceux, j'avais cet événement-là qui était marquant dans l'histoire de Montréal. qui était quand même le troisième grand incendie de Montréal. Là, on en a eu plusieurs. Et vraiment, c'est ça devient l'espèce de flou de l'histoire. Tout tourne autour de ça. Là,
c'est incroyable. On s'imagine très bien là, ce qui a pu se passer à cette époque parce qu'on est dans les années 1850. Ça donne des frissons par moment.
Moi je sentais la fumée en l'écrivant. Oui. C'est drôle. Hein? J'avais une odeur de boucan dans le nez quand j'écrivais ça. J'essayais de m'imaginer ce que c'est d'être pris là-dedans, avoir les yeux qui pleurent, avoir la gorge brûlée. Ça peut être quelque chose.
Ah, et comment? La description est fantastique. J'aime beaucoup votre façon d'écrire, Hervé Gagnon. La cage, l'empoisonneuse est maintenant disponible, c'est le tome 2, chez Hugo Jeunesse. 304 pages, $19.95. Et j'aimerais qu'on parle brièvement concernant votre série, Les enquêtes de Joseph Laflamme, la série est maintenant disponible en format poche. Ça, les premiers romans ont sorti, c'est quoi, en 2014, M. Gagnon?
Ça a commencé. En 2014.
Il y en a quatre, hein?
Oui, il y en a six. Et Joseph a fait une longue sieste de quoi, 4-5 ans.
Oui.
Et entre-temps, c'est une longue histoire, j'ai récupéré les droits. Mon éditeur actuel était un amoureux inconditionnel de La Flamme. Il a décidé qu'on les refaisait en format poche. La beauté de l'affaire, c'est qu'ils vont aussi, ils sont aussi maintenant disponibles en Europe, ce qui n'était pas le cas. Et ça fait des très beaux romans. Et là, la grande surprise que je réserve à mes lecteurs, parce que ça fait comme 5 ans, 6 ans qu'on me le demande,
oui,
à quand le prochain La Flamme, je peux répondre maintenant à l'automne 2024.
Oh!
Ouais, il est écrit, il est prêt, il est bon, il a fallu que je me retienne pour pas trop cabotiner, tellement que j'avais du plaisir à les retrouver.
Oui.
Je les ai retrouvés comme une vieille paire de pantoufles confortables. Et j'ai eu le plaisir de ma vie à les revoir ensemble, toute la gang de Joyeux de Rire qui se picosse, qui se gosse, qui se maltraite, mais avec amour. Là,
c'est
ils sont aussi drôles qu'avant, sinon plus.
Ah bon? C'est à découvrir, les enquêtes donc de Joseph Laflamme. Hervé Gagnon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser ce matin. C'est un plaisir.
Ce fut un grand plaisir.
Et à une prochaine, bientôt, j'espère.
Au revoir.
Bye bye.
Au revoir.
Bye bye.